l'absurdité,
de l'absurdité,
de l'absurdité, de l'absurdité.
Des portraits, un soupçon d'actualité,
une louche de solidarité,
des reportages bien montés.
Radio Canus en 2.2. Et aujourd'hui, c'est la rentrée de Lilith, Martine et les autres. On attaque notre sixième saison. Donc, on va faire un petit apéro. Et on s'est dit, en fait, que vu que c'était la sixième saison, on allait manger des chips pendant toute l'émission. Alors, c'est une émission la bouche pleine. Et on va manger plein de chips. Voilà, comme ça. Bon, et puis,
ça fait du bruit, hein.
Ça, c'était au début. Et après, on s'est dit que peut-être ça allait être un peu chiant à entendre. Donc, on a abandonné cette idée. On mangera les chips, en fait, pendant qu'on passera la musique. Et du coup, bah, vous, chers auditeurs et auditrices, vous ne nous entendrez pas manger les chips. Voilà. Mais c'est pas grave, on va passer une bonne émission quand même. Et bon, alors, comme on est un petit peu en retard, puisque nous sommes le 20 septembre, on est en retard sur la rentrée des écoles primaires. Mais les étudiants et les étudiantes, cette bande de feignants et feignantes, ils sont rentrés que maintenant. Donc voilà, on va faire la rentrée universitaire. Et on va commencer l'émission avec le montage d'une interview de deux étudiantes. Donc une étudiante en master 2 d'anthropologie et une doctorante qui vient d'obtenir sa bourse doctorale, et on la félicite d'ailleurs, qui s'appelle Laure. Et donc la première, c'est Marine. Et il y a aussi Maureen, voilà. Donc toutes les trois, en fait, elles ont répondu à des questions sur l'anthropologie et le féminisme et l'anthropologie. Donc voilà. Donc on écoute tout de suite ce petit montage qui dure 15 minutes. Et donc la première question, c'est: qu'est-ce que l'anthropologie? Est-ce que vous avez une définition?
Après, moi j'ai l'impression que j'ai plus tendance à le voir comme voilà, dans chaque culture, on a une paire de lunettes, un filtre particulier, des verres particuliers qui nous permettent d'appréhender, d'avoir une conception du monde, des choses, de ressentir la vie, de la concevoir intellectuellement, tout ça, et de la vivre. Et que donc chaque culture a sa paire de lunettes, ses verres appropriés, on va dire. Et la démarche ethno ou anthropo, ça va être aller peut-être essayer d'autres verres ou de modifier les verres qu'on a ou de changer de paire de lunettes pour voir comment l'autre, en fait, il appréhende le réel. C'est toute une question, en fait, d'une tête de réel, sauf que voilà, chacun le perçoit à travers des filtres qui lui sont propres, qui sont sa culture. Et nous, c'est peut-être ça qu'on va essayer de dégager, essayer de voir comment l'autre regarde. Donc voilà, sachant que c'est pas, il y a un réel et après chaque temps, c'est difficile à savoir, mais moi c'est un peu comme ça que je le conçois, quoi. Changer de paire de lunettes pour essayer de comprendre le réel des autres, ouais, moi c'est comme ça que je le vois.
En fait, moi je crois que l'anthropologie c'est vraiment un effort de décentrement pour essayer de lutter contre les réactions malheureusement assez naturelles qu'on a en général, ethnocentristes, et qui font qu'on juge l'autre à partir de ses propres valeurs, de ses propres façons de faire. Et la démarche de l'anthropologie, c'est essayer d'aller au-delà du sens commun, de dépasser les stéréotypes et les préjugés qu'on a de premier abord quand on est face à l'altérité. Et voilà, par le biais de l'observation participante, par le biais d'entretien, de faire en sorte, essayer de comprendre pourquoi telle pratique, pourquoi telle façon de penser le monde. Et voilà, essayer de dégager la logique sociale de choses qui, à première vue, peuvent paraître absurdes ou incompréhensibles. Voilà, essayer d'aller au-delà des stéréotypes.
Et quelle est la place du genre dans les études d'anthropologie ?
Non, la question du genre. Enfin, d'abord, en fait, avant le genre, ce qui est arrivé, c'était la question des rôles sexués. Mmh. Et la première anthropologue qui en a parlé, c'est Margaret Mead, une Britannique ou une... c'est ça, Britannique, non ?
Nord-américaine, non ?
Une Nord-américaine, je sais plus. Je sais plus. Mais bon, c'est Margaret Mead qui en a parlé et qui a mis au jour, en fait, qu'il y avait des rôles sexués particuliers, puisque elle, en étudiant différentes communautés, elle a réalisé que ce qu'on attribuait aux femmes en général, voilà, elles sont douces, elles sont sensibles, elles sont compréhensives, etc. Et les hommes, ils sont plus colériques, forts, déterminés. Bon, là, je dis un petit peu les stéréotypes qu'on associe au genre féminin ou au genre masculin. Elle a remarqué que dans d'autres sociétés, en fait, on pouvait observer que parfois, ça peut être les femmes qui tiennent la culotte, entre guillemets, et puis qui sont colériques, et les hommes qui sont plus dans des rôles passifs. Donc elle a remarqué que finalement, c'est elle qui a mis en avant en premier l'idée d'une construction sociale des sexes, en fait, et des comportements.
Et c'était en quelle année, ça ?
C'était en 1930, il me semble, je crois. Hein ?
Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Mm. Elle a fait ses recherches en Papouasie-Nouvelle-Guinée, non ?
À Samoa ?
Océanie aussi, non ?
Océanie,
ouais.
Ouais.
Océanie, ouais. Mais je crois qu'après, il y a différents endroits. Elle est allée dans beaucoup d'endroits, ouais. Quoi. C'était seulement en Océanie ?
Non, mais peut-être je pense que c'est son étude la plus
poussée.
Ouais. Il me semble que c'est sur Samoa.
Ouais, après, les mœurs, ouais, c'est ce livre-là, en Océanie, ouais, celui-là.
Et il me semble d'ailleurs que Malinowski, dans les mêmes années, a écrit un bouquin sur la sexualité, qui est un peu passé à travers d'ailleurs des écrits, mais qui doit être aussi dans les années 30, un truc comme ça. L'anthropologie de la sexualité, un truc comme ça.
Ah ouais ?
Ouais, que j'ai à la maison.
C'est intéressant, déjà ces années-là.
Qui met peut-être pas autant le doigt justement sur la construction sociale des sexes, mais en tout cas qui apporte déjà les questions de sexualité, de pouvoir et de rapport de pouvoir, donc qui sont quand même déjà une première amorce par rapport aux travaux des années 60-70, où là il y a carrément eu un tournant, quoi.
Mmh. Ouais. Le tournant dans les années 60-70, c'est ce qu'on appelle le féminisme de la seconde vague, qui féministe de la première vague, c'est plutôt le militantisme des années, de la fin du 19e jusqu'à justement dans les années 50-60, où les femmes se sont battues pour avoir des droits civiques, en fait, pouvoir être des citoyennes à part entière. Donc ça a été un grand combat finalement qui s'attaquait à cette place-là dans la société. Et donc à partir de là, les femmes ont réussi à avoir certains droits. Finalement, ça s'est un petit peu essoufflé. Et dans les années 60-70, là, le mouvement féministe a repris. Et cette fois, donc c'est féministe de la seconde vague, mais sur des nouvelles bases.
Matérialistes, marxistes.
Et donc, Marine, quel est ton sujet d'étude et ton terrain d'étude ?
Alors moi, je m'intéresse aux mutations dans la transmission des savoirs des guérisseuses accoucheuses au nord du Guatemala. Voilà.
Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elles font, ces accoucheuses ?
Qu'est-ce qu'elles font ?
Qu'est-ce qui leur arrive ?
Qu'est-ce qui leur arrive ? C'est qu'elles n'ont plus de boulot, quasiment. Ou alors, en cas d'urgence, effectivement, elles pratiquent des accouchements. Ou alors, elles servent juste à emmener les personnes à l'hôpital. Donc...
Et pourquoi elles n'ont plus de boulot ?
Bah parce qu'il y a un relais concomitant à l'industrialisation de la région et des structures hospitalières. Et un pouvoir gouvernemental, tout ça, qui du coup a toujours un pouvoir sur, comme on disait tout à l'heure, la sexualité, mais aussi sur la vie et sur la mort. Et du coup, on préfère mettre l'accent plutôt sur les institutions hospitalières, plutôt que l'accouchement à la maison. Il y a de toute façon potentiellement des risques quand on donne le jour à un enfant, que ce soit pour la mère ou pour l'enfant. Mais il y a une préférence, et de la part des gens même, du coup c'est aussi rentré, ils ont incorporé ce mode de pensée-là, comme quoi c'est plus... sécurisé, ouais, de faire ça à l'hôpital.
Et donc toi, tu les as rencontrés, ces nanas ?
Ouais.
T'as été au Guatemala ?
J'ai été au Guatemala et j'ai rencontré un certain nombre de ces femmes-là qui sont pour la plupart avant tout des curanderas, donc des guérisseuses, mais pour certaines qui sont, ben, qui sont aussi donc des accoucheuses, et d'autres qui, donc du coup, parce que depuis ouais, une dizaine d'années, il y a une formation. Donc on est du coup accoucheuse titulaire, alors que c'était pas le cas avant et que grand nombre de personnes pratiquaient des accouchements sans avoir un titre particulier ou un diplôme particulier, alors que maintenant il y a beaucoup plus un mécanisme de contrôle sur cette profession là et qui se ressent beaucoup. Et donc du coup il y a des femmes qui sont donc qui sont pas spécialement des guérisseuses puisqu'elles vont se référer uniquement à la médication au niveau du soin et sinon donc de l'accouchement ou de l'accompagnement à la grossesse et à l'accouchement pour aller à l'hôpital. Et donc du coup il reste une partie de ces personnes qui sont en marge, qui sont ces guérisseuses accoucheuses illégales. Et là, c'est plus compliqué puisqu'on a affaire toujours à des fonctionnements de délation, de rumeurs et tout ça qui peuvent poser d'énormes problèmes puisque si elles se font choper, elles peuvent aller directement en prison. Ça peut être très très compliqué. En général, elles vont avoir un rendez-vous à l'hôpital où les gens vont leur dire « Madame, est-ce que ça vous intéresse de passer le diplôme ?» Comme ça, voilà, ça vous évite les problèmes tout en continuant à pouvoir exercer et tout ça, mais dans la légalité. Et comme ces personnes-là, elles ont plus de 70 ans, ça les emmerde, elles connaissent leur métier, elles ont commencé à faire leurs premiers accouchements, elles avaient quoi, 15, 16 ans, 17 ans, elles n'ont pas envie de valider ça par un diplôme. Mais c'est compliqué dans leur réalité. Et elles soignent principalement avec la pharmacopée locale, les plantes qui sont autour d'elles.
Et est-ce que tu as assisté à un accouchement ?
Non. Non, j'ai pas eu cette chance-là. Et ça a été la grande frustration de mon travail de terrain. Et à un moment donné, j'ai pensé que ça allait arriver. Et il s'est trouvé que j'étais chez une des accoucheuses. Je venais de manger là-bas, on papotait. Et il se trouve qu'il y a une autre accoucheuse qui était une illégale. Et il se trouve qu'il y a une autre illégale qui est arrivée en courant, en disant « Voilà, moi, il faut que j'aille à tel bled pour aller faire telle chose. Il y a ma fille qui va accoucher là, d'une minute à l'autre. Est-ce que tu peux venir ?» Tout ça. Et il se trouve que la personne chez qui j'étais, elle a un mari très âgé qui a 94 ans, qui ne peut pas rester seule à la maison. Et du coup, elle a refusé d'aller faire cet accouchement pour ne pas laisser tout seul son mari. Et du coup, cette fille-là a terminé à l'hôpital, quoi. Et ça a été hyper frustrant. À un moment donné, je suis sortie, je suis allée fumer une cigarette en me disant « C'est bon, là ! On y est !» Et puis, ben non...
Et toi, Laure, c'est quoi ton sujet d'étude ? Sur quel terrain est-ce que tu as travaillé ?
Ah. Mon terrain, moi j'ai étudié les mariages par correspondance. Donc les mariages par correspondance, c'est un phénomène nouveau qui est arrivé avec l'avènement des nouvelles technologies de communication, en fait. Même s'il y a des cas antérieurs qui ont existé avec des mariages qui se faisaient notamment avec des femmes françaises et des hommes qui étaient partis sur le nouveau continent en Amérique. Des choses comme ça, où du coup il y avait des mariages arrangés, en fait, des sortes de mariages par correspondance où les femmes rejoignaient les hommes. Mais là, du coup, c'est un autre cas de figure. C'est des femmes, donc ça implique des femmes originaires de Russie, des pays d'ex-Union soviétique majoritairement, des pays asiatiques, mais il y en a aussi en Afrique, en Amérique du Sud aussi. Et ça se passe donc par le biais d'agences matrimoniales internationales et les hommes. Qui répondent à cette demande sont plutôt des hommes dits occidentaux, donc voilà, l'Europe, l'Amérique du Nord, mais il y a aussi des Japonais, des Turcs, donc c'est assez global quand même comme, comme phénomène. Mais ça implique certains hommes et certaines femmes quand même. Enfin, par exemple, il n'y a pas d'hommes russes qui s'inscrivent dans des alliances matrimoniales internationales pour se marier avec des femmes françaises parce qu'il n'y a pas de répondants. Donc du coup, moi, je suis allée étudier ça en Sibérie et en Ukraine. Et donc je pense que d'être une femme, c'était quand même plus facile parce que je suis arrivée en Sibérie, j'ai fait des observations participantes dans des agences matrimoniales internationales. Et en étant une femme, j'ai pu travailler à l'intérieur alors que je pense qu'un homme n'aurait pas du tout pu le faire puisqu'il aurait été pris comme client potentiel en fait pour marier une femme sibérienne, quoi. Justement, sur le terrain, c'était très intéressant parce que moi, je suis partie avec un petit peu personne derrière moi. Personne n'avait voulu encadrer ma recherche dans le cadre de mon master 1. Parce que justement, tout le monde y voyait, y compris les profs d'université, mais finalement, c'est à toutes les échelles sociales de la France, en tout cas, c'est là que j'ai pu l'observer. Tout le monde pense effectivement que c'est les mariages par correspondance, les agences matrimoniales internationales, c'est rattaché à des réseaux de prostitution, ou alors que c'est des femmes qui sont dans des situations économiques dramatiques et qui cherchent à fuir leur pays. Mais pas du tout. J'ai pu l'observer donc en Ukraine et en Sibérie. J'ai rencontré au contraire, ce sont des femmes en général qui sont diplômées, qui ont un bac plus 5, qui ont une situation professionnelle assez établie, qui ne gagnent pas des salaires mirobolants, mais bon, qui sont installées quoi, et qui ne cherchent pas du tout à fuir leur pays, mais qui rencontrent plutôt un problème au niveau de la gente masculine. Parce que y a premièrement au niveau de la Sibérie, et moins au niveau de l'Ukraine, mais il y a un déséquilibre démographique qui existe. En Sibérie, ouais, il y a un problème démographique. Donc il se trouve finalement que les femmes ne trouvent pas d'hommes, il n'y a pas suffisamment d'hommes. Donc elles se trouvent confrontées, là-bas, c'est lot commun d'avoir une maîtresse, c'est même recommandé pour les hommes, et les hommes choisissent les femmes. Donc finalement, elles sont dans des situations, si elles veulent fonder une famille, si vraiment elles ont envie de fonder une famille, pour la plupart, si elles suivent des études, à partir de 25 ans, t'es complètement marginalisée si t'es pas mariée. Et à partir de 30 ans, c'est fini, quoi. T'es une vieille fille. Donc c'est un petit peu compliqué quand tu suis des études, tu veux faire une carrière. Et donc il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent isolées en fait sur le plan du marché matrimonial en Sibérie. Donc elles font appel à des agences matrimoniales internationales pour élargir leur champ de recherche. Et trouver un mari en fait et fonder une famille. Je l'ai observé sur d'autres cours. D'étudier voilà, les hommes qui finalement se tournent vers des femmes étrangères à un moment donné, n'arrivent plus à trouver ce qu'ils recherchent chez les femmes françaises. Étudier ces hommes-là, ça permet d'étudier en fait le masculin aujourd'hui, quoi, les masculinités, comment les hommes se situent face aux femmes en fait dans la société française. Et ça permet aussi de saisir en fait les transformations en cours par rapport à toutes les avancées justement au niveau de la condition des femmes, de leur statut dans la société, et de saisir ces transformations-là pour voir comment ça se met en place, comment ça se réajuste.
One of those black cat nights. The moon had gone out and the air was thin. It was the kind of night that the cat would drag in. I'll never forget it. We had a fight. Then you turned around, turned on the light. You left our bed, then you moved downstairs to live with her instead. Yeah, just one floor and a shout away. I guess I should have moved, but I decided to stay. Did I drink some poison that I don't remember now? Open all the windows, I let a cold dark wind blow through. I play loud organ music and I talk to myself and dream of you. Uh-oh, I hear voices coming up through the pipes, through all the springs in my bed and up through the lights. Volume goes up and drops back down. I can hear the two of you playing records, moving furniture and fooling around. Did I drink some poison?
Did I drink some poison?
That I don't remember now.
That I don't remember now. Is the blood on my hands? No, my hands are clean. Did I do something in another lifetime that was really, really me?
Yeah, I'm hearing voices. Am I losing my mind? Think I'm going crazy, gotta get out.
The street, start to shout. Get out of my way, get out, get out. Did I drink some poison that I don't remember now? Is the blood on my hands? Did I do something in another lifetime? Really, me.
A small bullet, a piece of glass, and your heart just grows around it.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, le 102.2 FM. On est sur Lilith Martin et les autres et on vient d'écouter Poison de Laurie Anderson. Et maintenant, on va discuter et on va faire notre chronique cinéma puisque c'est la rentrée culturelle aussi de Lilith. Et on va vous parler dans un premier temps du film de François Ozon, Jeune et Jolie. Donc on vous dit tout de suite, on va raconter plein de trucs qui se passent dans le film. Donc si vous ne l'avez pas encore vu et que vous détestez qu'on vous raconte les films, eh ben, il faut arrêter d'écouter.
Baissez le volume pendant quelques minutes.
Voilà ce qu'on avait bien envie de décortiquer un peu, ce qu'on en avait pensé. Du coup, ça implique de raconter des scènes. Alors déjà, ce film, eh ben, y a une super grosse promo. Donc je pense que vous en avez déjà entendu parler sur d'autres radios, d'autres télé, journaux, tout ça. Et il a été assez critiqué, Ozon, pour ce film.
Surtout parce qu'en fait, il disait que c'était un fantasme féminin de se prostituer. Donc il a été hué au Festival de Cannes notamment. Et bon, alors est-ce que c'est un fantasme masculin que ce soit un fantasme féminin de se prostituer? Sûrement, mais n'empêche que il parle de la prostitution choisie et ça ça existe.
Voilà, parce que le film, donc on peut rappeler l'histoire rapidement, donc c'est une jeune fille quand même de 16 ans, je crois.
17 ans. Elle fête ses 17 ans au début du film.
Il va du coup au lycée, nanana. C'est lycée de centre-ville à Paris. Je crois que c'est Henri IV. Voilà. Et en fait, ça parle de sa première expérience sexuelle avec en vacances, un truc très classique avec un garçon, un Allemand, qui est là en vacances dans le sud.
Un gentil garçon.
Qui est très gentil, très blond, avec des yeux bleus. Et après, de comment elle découvre finalement la prostitution sur Internet. Et donc, elle se fait sa page et en fait, elle choisit d'avoir des relations tarifées avec des hommes plus âgés, en montant sur son âge, parce que du coup, elle est mineure. Et donc, en fait, ce qui était dans les critiques sur... François Ozon, il a été critiqué, donc ils ont dit parce que cette histoire de prostitution, c'est un fantasme féminin, etc. Mais en fait, moi, ce que j'ai entendu dans les critiques aussi, c'est que dès que, ce que tu disais tout à l'heure, dès qu'on parle de prostitution choisie, où la personne, c'est pas une petite victime avec un réseau de proxénètes derrière, parce que tous les films, quand même, qui sortent, les films grand public qui parlent de prostitution, très souvent, alors j'ai plus les noms en tête, ça m'énerve parce que j'ai pas suffisamment préparé, mais il y a des. Les films, en général, c'est. La meuf, elle s'est fait choper par un proxénète qui l'a battue à mort, et puis ils l'ont violée en réunion, et puis ensuite, du coup, elle a plus le choix de rien, et puis du coup, elle décide de rien de sa vie. Et bon, en fait, on n'y est pas du tout dans cette émission que c'est aussi une réalité, mais qu'il existe aussi des personnes qui décident, qui font ce choix-là. Et donc il y avait pas mal de choses intéressantes dans le film dont on voulait parler. Donc notamment, bah, moi il y a un truc, c'est la première scène de sexe. Donc c'est une scène qui est donc c'est sa première fois à la fille. Et donc c'est avec cet Allemand, et en fait je trouvais ça super intéressant, le fait que c'est la seule scène de sexe du film où c'est une relation qui n'est pas tarifée, donc qui est censée être une relation d'amour, tout ça là. Et c'est moi en tout cas j'ai trouvé que c'était la scène de sexe la plus horrible, où la fille elle le vivait le plus mal, et qu'en fait ça fait vraiment, bon bah il faut en passer par là. Le mec en plus c'est pas du tout une caricature, c'est un mec normal, il est pas méchant, il est pas, voilà, mais juste bah la relation sexuelle elle se passe mal quoi. Donc elle vit super mal le truc, elle a l'impression d'être en dehors d'elle-même, de pas du tout profiter de la situation, de pas du tout se faire plaisir, il n'y a pas d'échange entre eux. Et enfin, je sais pas, moi je trouvais ça hyper juste de montrer ça comme ça, tout en... alors que le mec c'est pas un vieux vicelard, c'est pas une caricature de mec, c'est un mec normal. Donc je sais pas ce que vous en pensez.
Moi ça me donne envie de te poser une question, parce que j'ai pas vu le film. Elle est seule dans ce choix-là. Est-ce qu'elle en parle à des amis? Est-ce qu'elle rencontre d'autres personnes qui font ce choix?
Bah elle est... Moi j'ai trouvé ce qui était hyper marrant, c'est que donc elle est dans une famille bien bourge, mais bien ouverte, enfin voilà. Mais avec des parents qui... Enfin sa mère... je trouve qu'il est hyper intrusif dans sa vie, et dès que la mère elle a capté que sa fille elle avait peut-être un mec, elle est à fond quoi pour que sa fille elle baise avec lui quoi. Enfin tout le monde est super, puis même le beau-père, les amis des parents, le frère, son petit frère aussi, tout le monde est vraiment enthousiaste quoi. Ouais. Et veut inviter le mec à manger alors qu'elle elle a pas envie. En fait, elle le vit pas hyper mal. Enfin, on a pas l'impression que c'est horrible, quoi, cette première expérience, mais c'est pas terrible. Mais bon, voilà, ça la fait chier, en fait, que tout le monde essaye de se mêler de sa vie, alors que elle, bon, bah, voilà, quoi, elle fait un peu son truc et tout. Et bon, et finalement, non, il la laisse pas faire, quoi. Et ça, ce truc des parents, oui, certes, ils se fument en joint aussi, tu les vois.
Ouais, ça fait vraiment les bourgeois de gauche, quoi.
Ouais, bourgeois de gauche, mais hyper intrusif et pas... Enfin, pas hyper respectueux, finalement, de l'intimité de leur fille, quoi. Ouais.
Et après, bah, sur le truc de choix de se prostituer, c'est vrai que c'est bien... elle, c'est vraiment toute seule face à ça. Mais du coup, il y a plein de réflexions, moi, je trouve super intéressantes sur... notamment on la voit vraiment, il a bien cerné le truc des jeunes, surtout des filles de cet âge là qui font du babysitting. Donc il y a une scène par exemple où elle fait du babysitting, puis elle se fait 60€ en 6 heures de boulot, alors que je crois que à chaque fois qu'elle couche avec un mec dans le film, elle fait payer ça entre au moins 200€.
300 et 500, ouais, entre 300 et 500.
Donc du coup c'est super intéressant, qu'il montre vraiment qu'elle a un truc de... Bah ouais, mais bon, en gros, si ça me fait pas trop chier de faire ça... Enfin, moi, je trouve que ça ressort vachement. Elle le dit pas, hein, on voit pas du tout comment elle analyse le truc, mais dans tout ce qu'il montre, je trouve qu'il fait vraiment ce parallèle de... Bah oui, bah tu fais un boulot, tu vas garder deux gamins pendant 6 heures, et puis tu gagnes 60€, puis tu fais une nuit avec quelqu'un, même pas une nuit, quoi. En fait, des fois, c'est 2 heures, 3 heures, et tu gagnes 300€. Bah voilà, des fois, il n'y a pas photo si t'es dans une optique de travail, quoi, et de gagner de l'argent.
Et c'est peut-être ça, du coup, la première scène où elle gagne pas... où c'est pas rémunéré. Et du coup, peut-être c'est parce que c'est le fait de ne pas être rémunéré, c'est pas être associé à un travail. Alors que peut-être le fait de dire que c'est un travail et d'être rémunéré, ça met une certaine, je sais pas, distance ou quelque chose. Voilà, c'est mon boulot et du coup...
Ouais, moi je trouve qu'il y a vachement ça. En tout cas, la réflexion derrière, il y a ça, même si elle, on ne voit pas... En plus, c'est toujours montré finement. Je trouve qu'il n'y a pas de lourdeur, en fait. Genre, il fait pas du tout un pamphlet pour la prostitution ou je sais pas quoi. Mais c'est plus, tu vois que c'est possible dans certaines situations... Vu qu'en plus, elle a pas du tout besoin d'argent, parce qu'elle vient d'une famille bourge qui lui donne tout ce dont elle a besoin. C'est que, en fait, c'est un truc de... Bah... Alors du coup, il y a le truc du fantasme derrière, où moi, je sais pas, je me prononce pas là-dessus, que peut-être c'est un fantasme qu'elle a, mais il y a aussi le côté, en même temps, si je veux me faire de la thune, en tout cas, je vois que ça, ça marche. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai vraiment vu comme ça.
Ouais, puis il y a aussi, quand même, elle se fait plein de thunes, et elle les cache dans une petite pochette, et elle compte sa thune et tout, et c'est un peu... Je sais pas, tu sens que ça lui fait plaisir quand même de se faire autant de thunes. Et pour revenir sur les relations tarifées, il y a quand même une relation qu'elle a avec un client qui se passe mal, et le mec il la traite comme une merde et il la paye pas le prix convenu, et voilà. Donc c'est quand même... Mais en fait sur l'argent, donc à un moment du film, ses parents ils sont mis au courant que voilà, elle fait la pute et que donc ils le prennent super mal. Et en fait, il garde son argent et elle dit mais c'est mon argent, c'est moi qui l'ai gagné. Et eux, ils sont hyper mal à l'aise avec ça. Et donc à un moment, sa mère, elle dit mais on va donner l'argent à une association pour la réinsertion des prostituées. Et elle, enfin, ça la saoule grave. Et après, finalement, le truc qu'elle trouve, c'est que donc elle est obligée d'aller voir un psy en fait. Et donc elle a dit bon bah je vais payer le psy avec l'argent de mes passes quoi. Et au début sa mère elle est pas d'accord et le psy dit bah oui mais bon
c'est son argent quoi.
En même temps c'est son argent quoi. Donc c'est vrai que le rapport à l'argent moi j'ai trouvé que c'était hyper Et puis surtout le rôle comme ça de enfin l'emprise de la mère sur sa fille et puis de la morale et elle paraît enfin à un moment elle découvre que sa mère en fait se tape le mec de sa meilleure copine la meilleure copine de la mère et donc elle lui dit ouais mais enfin tu vois il y a un peu un côté comme ça je trouve où elle dit mais toi tu dis que moi je suis pas morale parce que je faisais la pute mais bon toi tu tapes le mec de ta meilleure copine donc tu vois elle est où la morale
c'est chacune sa morale quoi
ouais enfin toi t'es bien avec ta conscience mais
et moi j'ai bien aimé hein. J'espère que les gens qui voulaient vraiment voir le film sans savoir ils nous écoutent pas parce que les pauvres on raconte tout j'ai bien aimé aussi le rapport à la thérapie parce que j'ai trouvé en fait à un moment donné la mère l'oblige quand même à aller voir un psy en disant mais c'est pas normal pourquoi tu te prostitues alors que t'as pas besoin d'argent nous on te donne tout ce que tu veux pourquoi c'est horrible tout ça ce qu'on peut comprendre quoi en même temps la réaction de la mère c'est vrai que c'est j'imagine quoi si t'es ta fille qui a 17 ans elle, t'aperçois qu'elle a un site internet où elle se prostitue c'est voilà ça peut être un peu surprenant mais du coup ce que je trouve super bien c'est que ça aussi moi je trouve il a bien rendu c'était semi caricatural mais c'est quand même pas mal c'est que quand même la première séance où elle va le psy direct il lui parle de son père je sais pas quoi parce que le père il est inexistant un peu dans l'histoire qu'elle est élevée plutôt par son beau-père et sa mère et du coup c'est moi j'ai trouvé ça trop marrant parce que j'ai l'impression en tout cas que François Ozon il l'a vraiment fait exprès comme ah bah regardez on va vraiment le mettre là où on l'attend quoi le psy. Et donc, ah, et ton père alors ? Bah oui, bien sûr. Et du coup, je sais pas, moi, j'ai trop rigolé dans la salle de cinéma et je me demandais si les autres gens, c'était des allusions qu'ils comprenaient parce que, quand même, il a un parti pris, moi, je trouve, là-dessus. Et sur la psychologiste que j'ai bien aimée, c'est aussi qu'à un moment, en fait, donc il y a une scène où elle se prostitue, c'est un client qu'elle a souvent. Bon, je raconte jusqu'au bout, là. En fait, il meurt pendant l'acte sexuel. Et en fait, ce dont elle a besoin de parler, qui l'a marqué et qui a été dur pour elle, c'est ça. Et je trouve ça super intéressant aussi ce truc que bah elle a pas tant mal vécu le fait de coucher avec ce mec tant que parce qu'en fait elle l'aimait bien enfin ils avaient un rapport un peu amical en plus de professionnel quoi et en fait je trouve ça bien la scène chez le psy où quand elle craque c'est vraiment parce qu'en fait elle a vécu quand même un truc traumatisant c'est qu'un mec il est mort dans ses bras quoi donc ça aussi ça renverse un peu la perspective de ah bah elle a dû enfin je trouve qu'il échappe à tous les trucs elle a dû être battue elle a dû être violée pour faire la pute c'est obligé son père n'est pas là enfin il y a quand même tout ça derrière en général quand on monte des films sur les prostituées et lui vraiment il prend pas du tout cet angle d'attaque et en même temps c'est pas caricatural dans l'autre sens c'est qu'on voit qu'elle est bah elle est quand même mal à plein de niveaux parce que c'est une ado qui se pose des questions enfin je veux dire elle est pas hyper épanouie et tout ça quoi. Enfin, je sais pas.
Une autre scène du film, moi, qui m'a bien fait marrer, c'est donc quand elle fait le babysitting. Donc là, tout le monde est au courant qu'elle a fait la pute. Et un peu pour se racheter, ou je sais pas, elle va faire du babysitting.
Elle fait la maman. Elle fait la maman.
C'est la meilleure amie de sa mère. Donc voilà, on sait déjà que sa mère se tape. Son mec, mais en tout cas donc elle fait le babysitting et tout et là donc le couple rentre du cinéma ou de je sais pas d'où et le mec il dit bon bah je te ramène chez toi, un peu le truc classique la maman elle va se coucher puis le papa il ramène la babysitter à la maison et là la mère elle se met à flipper et elle dit non non mais c'est bon je la ramène parce qu'en fait elle a peur quoi que enfin, que je sais pas.
Comme elle se prostitue, du coup, elle va sauter sur ouais. Tous les mecs qui sont là, quoi. C'est un peu ça derrière.
Et en plus, elle veut pas. Après, donc la gamine, elle le relève, ça. Et elle lui en parle. Elle lui dit, mais oui, t'avais peur que je me tape son mec. pour que tu me ramènes. Et elle nie en bloc. Elle dit non, pas du tout. Grave de mauvaise foi, quoi.
Il va se passer la même chose avec son beau-père aussi. Ou après qu'ils savent qu'elle se prostitue, une des dernières scènes aussi, où d'un coup la relation entre la fille et le beau-père, elle dérape un petit peu, et la mère arrive, et là elle devient complètement... Elle est complètement lancée dans ce truc qui dérape, et elle envoie chier tout le monde, parce que la prostitution maintenant elle est au grand jour, quoi. Comme si la fille allait se taper son beau-père. Enfin, je trouve que c'est là où c'est bien montré... les gens autour qui font que ça devient, la situation devient folle, quoi.
Oui, qu'est-ce qu'on en fait, quoi, en fait, de ce choix de la prostitution, quoi. Mais alors après, tout, peut-être on va conclure et s'écouter un petit morceau, mais moi je voulais juste ajouter, parce qu'on parle d'un certain point de vue, enfin je sais pas, pour les personnes qui nous écoutent, c'est aussi un peu les différents points de vue sur la prostitution. Il n'est pas question de dire, en tout cas pour moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais que la prostitution c'est génial, mais c'est plutôt que ce film, je trouve, qui montre bien l'approche de dire, bah en fait il y a plein de boulots qui peuvent être aliénants pour plein de raisons, et la prostitution ça fait, c'est un boulot, et du coup je trouve que ça montre bien cette optique là, quoi.
Moi je trouve que ça montre bien l'hypocrisie, en fait. Enfin, merci. Moi ce qui m'a le plus plu dans le film, en fait, c'est après l'histoire, je pense qu'elle est un peu, enfin voilà, c'est une morale de l'histoire. Enfin, c'est un truc un peu irréel, mais comme chaque fois que tu vas voir un film de fiction, voilà, c'est pas un documentaire, donc oui, c'est une histoire qui raconte une morale, mais surtout ce qui est mis en... Enfin, je sais pas si c'est ce qu'il a voulu faire, mais moi j'ai trouvé que voilà, c'était mis en avant l'hypocrisie là, de cette famille de bourges de gauche, et que ça j'ai trouvé pas mal, et je comprends que que la gauche un peu Télérama, peut-être ça leur a pas trop plu, le film. Et moi c'est marrant, ce que j'avais vu en fait de promo du film dans Libé, dans plein d'autres trucs là cet été, c'est l'actrice est belle, quoi. Et même j'ai entendu des gens dans le métro et tout qui disaient ah ouais, moi j'allais voir ce film parce que l'actrice elle est trop belle et machin, et non mais je te jure, et moi j'ai l'impression que la promo du film elle tournait essentiellement autour de ça, ouais. L'actrice est belle,
alors que oui, il y a quand même un fond qui est un peu plus
ouais,
intéressant, quoi.
Après c'est sûr qu'elle est belle, mais
oui, qu'est-ce que
enfin que c'est, ouais, c'est, ça fait partie du film aussi qu'elle est belle,
ouais.
Tu dis ouais,
oui. Puis il y a l'autre truc aussi, enfin qu'on n'a pas dit, c'est que c'est vraiment un type de prostitution. C'est que c'est vrai que ça montre vraiment un peu le type plus luxe, ouais, escort girl, quoi. C'est que c'est vraiment rendez-vous dans des hôtels, site internet aussi, elle est hyper belle, hyper jeune. Donc c'est sûr que c'est un type, mais moi j'ai l'impression que comme il fait pas une démonstration sur la prostitution qui parle vraiment de cette histoire là ben c'est intéressant, quoi. C'est pas à prendre comme représentatif de toutes les situations. Mais je pense souvent quand il y a des films sur la prostitution ou des, c'est que c'est des sujets où les gens ils y voient tout le temps ça représente tout, et du coup ah bah non, on peut pas dire ça parce que c'est pas ça, parce qu'il y a les proxénètes, parce qu'il y a machin, et en fait c'est pas question de nier que ça existe aussi, mais il y a plusieurs réalités de la prostitution, en fait.
Et je trouve ce qui est aussi assez révélateur, c'est la prostitution c'est quand même un métier j'ai l'impression qui est assez vieux, enfin que comme si un peu qui avait toujours existé, enfin je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais mais ça crée toujours autant de polémiques, ça met toujours autant mal à l'aise les gens, ça, il y a un blocage quand même autour de ce métier qui est énorme. Et pourquoi, et quand est-ce que ça va, on va réussir à dépasser ça aussi.
Et moi pour je sais pas, conclure, ou peut-être après il y a d'autres trucs à dire, mais pour faire un petit parallèle sur en cinéma français, quoi, sur la prostitution, il y a un autre film aussi où il y a une pute de luxe, quoi, qui est montrée, tout ça. C'est un film qui s'appelle Le coup de la vie et qui a été tourné à Lyon, et qui est, enfin moi que j'ai trouvé super. Et c'est un film qui tourne tout autour du rapport à l'argent. Et donc en fait, t'as cette nana. Dans le film, moi je vous le raconte pas trop parce que faut le voir.
On va se faire insulter après.
Et c'est hyper marrant, quoi. Elle, son rôle sur l'argent dans le film. Je vous le conseille.
Oui, peut-être pour ajouter juste, le film il se finit quand même de manière assez gentille, c'est-à-dire que la fille arrête de se prostituer ouais. et elle retrouve des rapports qu'on peut considérer comme normaux avec un garçon sur un mode mmh. hétérosexuel et tout le monde est content. Enfin, oui, oui, c'est une sorte vrai. De happy end un peu.
Alors, quand même, elle retrouve sa. Elle retrouve pas sa carte SIM à un moment donné avec les numéros, si. Je sais pas quoi. Il y a une scène quand même où ouais. on. Il montre que ah, peut-être elle va recommencer quoi.
Ouais et finalement elle tombe sur la femme ouais. Ah bah bon. Du mec qui...
Bon voilà quoi, vous allez voir le film puis vous nous écrirez
Charlotte Rampling dans toute sa splendeur. Non mais elle est trop classe en plus Charlotte Rampling, moi j'ai trouvé ouais,
c'est bien.
À la fin ouais.
Bon, mais d'ailleurs, on vous rappelle si vous avez des remarques ou des, je sais pas, des commentaires ou des, vous pouvez toujours nous écrire à radiolilith@riseup.net et on écoute de la musique.
Oui. Ouais.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, on vient d'écouter Lady Scarface de Lydia Lunch et c'est Lilith Martin et les autres. Alors on a fait la rentrée universitaire, la rentrée culturelle et maintenant on va faire la rentrée des coups de gueule.
Alors Claire, toi tu vas commencer par ton cul de... ton
cul. Mais commencez par mon cul.
Ta gueule de cul. Non, ton coup de gueule. T'as écouté France Inter ce matin.
Parce que moi,
et ça t'a énervé.
Voilà, j'ai un problème. Je vous le confie à l'antenne, entre nous. Le matin, j'écoute pas Radio Canu, j'écoute France Inter, parce que sur Radio Canu, c'est les bandes continues. Et... Sauf quand Jean-Pierre de la radio vient gentiment rediffuser le Canu Info de la veille, mais c'est pas tout le temps. Et du coup, j'ai la mauvaise habitude d'écouter France Inter le 7-9, présenté par Patrick Cohen. Tulu, tulu, tulu.
Ouais, écouter France Culture, hein.
Bah ouais, c'est ça. Et en fait, à chaque fois, ça me saoule, mais en même temps, ça me permet de me réveiller et quand même de m'informer sur le monde et tout ça. Et en même temps, ça m'énerve. Alors après, je bois mon café, je le digère pas, tout va mal. Et ce matin, donc, il y avait
c'était pire que les autres matins.
Ouais, parce que des fois, c'est des politiques qui parlent, mais du coup, je suis tellement habituée que ça va. Comment dire, ça me choque plus, quoi. Je me fais un petit matin Jean-Louis Borloo, un petit matin François Bayrou, un petit matin Patrick Devedjian, mais je suis à fond, quoi. Et là, ce matin, c'était un journaliste qui était invité pour son livre. Alors, j'ai mangé le nom du journaliste et le nom du livre, mais j'ai quand même essayé d'expliquer. J'étais pas bien réveillée, hein. C'était un livre sur comment la France traite les musulmans. Et en gros, il se positionne, il dit, sa position, moi, que j'ai trouvé intéressante, il disait, de toute façon, il n'y a pas du tout de réflexion sur... On veut obliger les gens à être différents de ce qu'ils sont, et on pense que comme ça, ça l'intégration, ça va marcher, quoi. Et donc, il fait une critique sur les lois sur le voile, sur les attitudes récentes envers les musulmans. Et en disant, en fait, une posture, j'ai trouvé quand même pas mal. Alors, elle disait pas que des trucs bien, mais j'ai trouvé que ça, c'était bien. En disant, c'est surtout aller contre des trucs qui existent, en fait, déjà, que les gens, ils ont des pratiques religieuses et qu'ils ont envie de les exprimer. Et qu'en fait, plus tu vas contre ça, plus tu fais plier les gens, plus t'es dans des dynamiques de haine et tout ça, et qui mènent à rien, quoi. Et donc, voilà. Et je trouvais que, en fait, quand même, il a eu la place de s'exprimer, parce que c'était vraiment lui l'invité. Mais ensuite, il y avait un débat avec un autre mec dont j'ai aussi mangé le nom, Richard Malka, je crois, qui disait, en fait, où c'est quand même la position qu'on entend tout le temps, parce que c'est donc les droits de l'homme, la laïcité, les droits des femmes, les droits de l'homme, la laïcité, les droits des femmes, et où je trouvais quand même que Patrick Cohen, il était hyper caricatural dans la manière dont il posait des questions aux journalistes qui étaient invités, qui avaient écrit son bouquin. Alors, je sais pas si c'est moi, ma vision, mais... Ou quand même, il lui disait mais vous, ça vous choque pas les femmes qui restent à la maison, et puis le voile intégral, et puis les barbus, mais ça vous choque pas, comme ça pendant 5 minutes. Et qu'il y avait un côté ridicule, parce que le gars, sa pensée était un peu plus fine que ça, quoi. C'est-à-dire qu'il analysait déjà les différents types, il distinguait bien différents types d'islam, et puis que lui, en fait, ce qu'il disait simplement, c'est des trucs de base que je pense aussi que... Si tu défends les droits des femmes, c'est peut-être pas en excluant les mamans des sorties scolaires... les femmes des lieux publics que tu défends les droits des femmes. Donc à la base, c'est un peu ridicule de penser que tu défends les droits des femmes en leur interdisant d'aller à des endroits ou des trucs comme ça. Il avait ce genre de position. Et l'autre, tu sais, tout ce qu'il retenait, c'était mais quand même, ça vous choque pas, c'est quand même grave. Voilà. Donc je sais pas si vous avez des trucs à dire par rapport à ça, parce que je crois qu'il y a aussi quelqu'un d'autre dans le studio qui a écouté ce matin.
Et à un moment... Oui, vas-y.
Non, je voulais saluer, moi aussi j'ai écouté France Inter ce matin, saluer un auditeur, ça aurait été chouette si c'était une auditrice, mais qui a appelé pour demander à Patrick Cohen s'il s'était pas trompé dans ses invités pour parler du voile et des femmes, parce qu'il y avait que des hommes pour parler du voile, ouais. Et que c'était quand même chouette d'entendre ça. Voilà.
Oui, c'est vrai que ça faisait du bien dans la discussion. Ouais, ouais. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule. Et du coup, de redire, nous on l'a dit souvent dans notre émission, c'est aussi un parti pris, mais de redire, moi j'en peux plus en fait d'entendre, comme tu dis, des mecs, alors que ce soit des journalistes, des politiques, te rabâcher toute la journée. Ah, mais parce que nous, la France, on est pour les droits des femmes. Puis bon, ils sont bien pour les droits des femmes quand ça les arrange et qu'ils peuvent faire des lois racistes. Voilà.
Merde.
Non, mais oh. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Et on a un autre coup de gueule encore sur France Inter ou pas ?
Ben, c'est un coup de gueule un peu général sur le climat anti-squat, anti-rom de la France. Parce que je pense que tout le monde est au courant que c'est la crise du logement et que c'est très difficile de se loger. À plus forte raison pour les Roms qui arrivent en France, qui ont souvent des familles assez nombreuses, qui n'ont pas d'autorisation de travail. Et on a vu à Lyon plusieurs camps qui s'étaient montés, notamment à La Soie. Et il y a plein de villes de France où c'est le cas. Et donc il y a Manuel Valls apparemment qui a fait une petite sortie.
Oui, dire qu'il n'y avait pas que les communes de droite qui expulsaient les Roms, parce que c'était évidemment des nuisances pour les populations, et que Lyon était quand même assez bien placé sur des trucs assez dégueulasses, de les renvoyer en Roumanie, tout ça. Enfin, bon,
il est bon dans le palmarès, quoi. Mmh.
Et dans la même veine, il y a un squat qui était à Lyon, place Saint-Louis, donc vers la caserne des pompiers dans le 7e. Et il y avait deux immeubles entiers qui étaient vides, qui appartiennent au CCAS, donc le Centre Communal d'Action Sociale. Et ils ont été expulsés hier matin à 6h du mat par le GIPN et par tout un tas de différents flics. Et donc il y avait des squatteurs jeunes et moins jeunes, français et d'autres origines, et des familles roms. Et trois Tunisiens aussi qui se sont fait arrêter pendant l'expulsion, ils n'avaient pas de papier. Et on ne sait pas trop où ils en sont. Ils sont peut-être au centre des rétentions administratives à Saint-Exupéry, on ne sait pas. Donc voilà, ça c'est un scandale parmi les scandales, parce que voilà, 70 personnes qui se logent eux-mêmes. Enfin, j'ai envie de dire... tout le monde dit c'est la crise, il n'y a plus d'argent pour faire du logement social et tout. Et là, il y a des gens qui s'auto-organisent pour se loger plutôt que voilà, d'être à la rue, d'être dans la merde. Ils s'entraident, ils s'organisent eux-mêmes leur logement. Et on les expulse. Donc, fait chier, quoi. C'était puis, mon coup de gueule.
On peut toujours redire, ouais, les trucs, les arguments, c'est toujours l'insalubrité. Donc Manuel Valls, quand il parle de ça, c'est tout le temps, c'est incroyable, on peut pas laisser des gens vivre dans ces conditions, c'est pas digne, c'est quand même l'argument tout le temps qui est prôné pour dire je suis quand même de gauche.
Ouais, donc autant que les gens soient dans la rue.
Voilà, parce que quand même, je sais pas si vous passez à Perrache souvent, mais pendant, alors là c'est un peu moins vrai, donc peut-être que c'est des personnes qui ont été expulsées, mais pendant, je sais pas, genre un mois, moi je travaille à côté, en fait, il y avait... genre 50 personnes qui habitaient sous le tram, quoi. Donc, entre avoir une maison avec de l'électricité et de l'eau et habiter sous le tram, au niveau de l'insalubrité, je sais pas, mon cœur balance.
Surtout que finalement, les gens, sur les terrains là, qui étaient squattés, en fait, ils s'arrangeaient quand même pour avoir... c'est pas Byzance, quoi, mais voilà, c'était assez... clean, des petits endroits en fait tranquilles, à peu près chauffés, à peu près propres, pour être peinard, pour dormir, manger. C'est vrai que c'est pas super classe. On comprend que Manuel Valls, pour lui, ça lui semble vraiment trop pourri. Parce qu'on pense bien qu'il vit pas dans des conditions comme ça. Ça lui est peut-être jamais arrivé. Mais en tout cas, je pense que pour ces gens, c'est mieux que la rue, quoi.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est une belle ordure, quoi. Mmh. Donc, demain, c'est samedi, donc il n'y a pas le 7-9 de Patrick Cohen, mais moi, j'espère que lundi, je vais réussir à pas écouter le 7-9 de Patrick Cohen.
On va écouter un petit peu de musique, et après, on fera une petite annonce, et puis après...
On vous laissera.
On vous abandonnera lâchement.
bientôt la fin de notre émission et on écoute Evelyn Champagne King, Shame.
Oh yeah. Et pour finir l'émission, une petite annonce. Donc à Lamartine, c'est donc le squat. Enfin non, c'est pas un squat du tout. C'est le lieu qui remplace la friche. Donc c'est moins bien que la friche, mais il se passe quand même des choses chouettes là-bas. Et notamment ce soir, le vernissage d'une exposition sur l'érotisme. Et c'est organisé par des nanas. Et toutes les artistes qui exposent sont des meufs. Et dans une ambiance un peu féministe. On peut le dire. Et apparemment...
Le mot est lâché, le mot.
On peut lâcher le mot. Et bon, je ne l'ai pas encore vu, mais peut-être la prochaine émission, dans 2 semaines, je vous ferai un petit compte-rendu de cette exposition qui a l'air, ma foi, intéressante. Donc voilà, c'était notre émission qui s'appelait Martine, la bouche pleine. C'est fini pour aujourd'hui.
On a mangé beaucoup de chips. C'est un reportage qui a été fait par Nawel, donc qui travaillait.